Je vous dis bonjour à toutes et à tous. Alors, je me suis rapprochée de vous physiquement, exceptionnellement. Donc, je vais vous parler, effectivement, ce qu'a dit le père Antoine. Je vais tuer le père des Genettes. Voilà. Mais je pense que pour lui, c'était pas la mort, c'était comme disait Thérèse, elle entrait au ciel, il entrait dans la vie éternelle. Donc c'était une grande joie pour lui. Donc l'abbé Charles Desgenettes, qui était curé de Notre-Dame des Victoires depuis 1832, célébra le 50e anniversaire de son sacerdoce en 1856. Il pensait qu'il avait atteint, sinon le terme, du moins la dernière étape de sa vie. Il avait 78 ans. Il rédigea son testament, dont je vous en livre des extraits. Au nom de la très sainte Trinité, Dieu unique, Père, Fils et Saint-Esprit, en présence duquel je m'anéantis dans les sentiments de la plus profonde adoration, j'accepte la mort en esprit d'obéissance à la volonté de mon souverain Maître pour satisfaire à la justice divine et en expiation de tous les péchés de ma vie. Je prie la miséricorde de mon Dieu de me faire la grâce de recevoir les divins sacrements à l'heure de ma mort. Je veux mourir dans la foi et la communion de la Sainte Église catholique, apostolique et romaine. Je remets par avance mon âme entre les mains de Dieu, mon Créateur, le suppliant par les mérites du sang adorable de Jésus-Christ, mon Sauveur, par l'intercession de la très glorieuse Vierge Marie, Mère Immaculée de mon Rédempteur. Quant au lieu de ma sépulture, s'il m'est permis d'exprimer un vœu, je désire être enterré dans l'église Notre-Dame des Victoires, au pied de l'autel de la Sainte Vierge, sous les yeux de celle qui m'a béni. Cyril de Mondebanque, qui faisait partie du conseil de famille, confiera plus tard, il avait toujours eu le désir d'être enterré au pied de l'autel de la Sainte Vierge. Et comme il le disait lui-même, c'était pour lui une préoccupation d'enfant. Quand on était sur ce sujet, sa figure prenait une expression particulière de joie. « Oh oui, disait-il, être là, sous ses pieds, sous les pieds de cette bonne mère, c'est mon grand désir. » Et puis, les personnes qui viendront visiter Notre-Dame des Victoires, en voyant ma tombe, penseront à moi et prieront pour ma pauvre âme qui en a tant besoin. La voix lui fit d'abord défaut. Les fidèles étaient tristes de ne plus l'entendre quand il prêchait, mais il disait aussi que sa simple vue valait un sermon. Vers le mois d'août 1858, le tremblement qu'il affectait depuis quelque temps s'aggrava et, il lui devint très difficile d'accomplir les simples gestes de la messe quotidienne. Le jour de sa fête, le 4 novembre 1858, il célébra la messe pour la dernière fois. Il lui restait encore presque 2 ans à vivre. « Me voilà presque entièrement perclus », confia-t-il à un ami. « Je ne puis plus dire ma messe, mais au moins je peux prier. Le pourrai-je encore longtemps ? C'est ce que je ne cesse de demander à Dieu. » Les fidèles le virent assister dans leur rang à la messe de 8 heures, communier au milieu d'eux, prier longuement, puis il se rendait encore au confessionnal qui ne désemplissait pas. Cyril de Banque raconte que son fils fut l'avant-dernier enfant que le père tint à baptiser. C'était en 1859. Il y a si longtemps que je n'ai fait de baptême que je crains de ne plus savoir baptiser. Cependant, je tâcherai de m'en souvenir pour votre fils, lui dit-il. Un jour, on remarqua qu'il ne venait plus à l'église. Les uns dirent qu'il avait descendu une marche de plus, mais lui se voyait plutôt remonter à contre-courant vers sa source, disant « Patience, d'autres souffrances m'attendent qu'il me sera bon d'offrir. » Il ne pouvait plus gravir les 4 étages qui le conduisaient à son appartement. Depuis quelque temps, on devait le porter à l'église, mais le jeudi saint de l'année 1859, il dut renoncer définitivement à quitter son logement de la rue du Mail. Pendant les derniers mois de sa vie, sa chambre devint un lieu de pèlerinage. Les fils et les filles spirituelles venaient se confesser à lui, le consulter pour des affaires graves, s'entretenir amicalement, lui c'était une prompte guérison, ce qui le faisait sourire bien entendu. Il assistait à la messe dite par un confrère dans une pièce contiguë à sa chambre. Bien que sa pensée constante montât vers le ciel, il ne se désintéressait nullement des affaires temporelles, prenant souci des moindres détails administratifs de sa paroisse. Jusqu'à l'avant-veille de sa mort, il s'occupa de procurer une autorisation pour un mariage célébré dans son église. Ne pouvant plus réciter son bréviaire, il avait tenu à en recevoir la dispense du pape, bien qu'il n'en eût pas besoin. Il disait « C'est l'Église qui m'a imposé le devoir de l'office divin. Je ne puis m'en dispenser qu'avec le bon plaisir de son chef. » Mais il continuait à réciter par cœur les complis, l'une de ses prières préférées. La semaine sainte apporta une nouvelle aggravation de son état. Malgré sa faiblesse, il refusait tout aliment gras. Mais le mercredi, dans l'octave de Pâques, la dysenterie se déclara. Au médecin qui lui donnait quelque espérance de rétablissement, il répondit en souriant « Si vous me guérissez, je vous donne un merle blanc ». Malgré sa souffrance, il voulut présider la réunion du bureau des marguilliers de la paroisse, mais il ne put présider le conseil de fabrique. Après la réunion, il fit appeler le secrétaire, M. de Mondebanque, et donna ses avis avec une sagesse et une présence d'esprit étonnante. L'abbé Desfossé, chargé de le suppléer à l'office de l'archiconfrérie, vint lui demander ses instructions. Et il lui dit « Vous aimez bien la Sainte Vierge, n'est-ce pas, monsieur le curé ?» Il répondit à juste titre « Vous avez beaucoup fait pour elle. »« Non, non, répondit le père, pas du tout ce que j'aurais dû. »« Que dirais-je ce soir de votre part ?»« Tout ce qui peut édifier, c'est un père qui fait ses adieux à ses enfants. » Voulez-vous, monsieur le curé, que je dise de votre part que vous pardonnez à tous ceux qui vous ont fait de la peine ? Non, ce n'est pas nécessaire. On croirait que j'ai eu de la rancune. Je ne connais personne qui m'ait fait du mal. Bientôt, il comprit qu'il était temps pour lui de communier en viatique. C'était déjà le début de l'agonie. Le trouble de l'âme qui fera dire au curé d'Ars « Il est triste de recevoir le bon Dieu pour la dernière fois. » De nombreux amis assistaient à la cérémonie. Quand tout fut fini, il s'absorba dans une longue méditation. Le chapelet ne quittait plus ses doigts. Plusieurs fois, il reçut la visite de Mgr Morlot, archevêque de Paris, qui lui demanda si rien ne lui manquait. « Monseigneur, murmura le prêtre en souriant, j'ai autour de moi une famille bien respectable et dévouée et qui me prodigue les soins les plus tendres. Je le sais et j'en suis heureux, mon bon curé, et je m'en vois satisfait. Du reste, je me recommande à vos prières. On ne peut pas terminer une plus belle carrière avec plus de calme et de sérénité. Vous irez au ciel avant moi. mais vous avez travaillé beaucoup plus que moi. » Et l'archevêque lui donna sa bénédiction avant de partir, lui promettant de le confier aux prières des conférences de Saint-Vincent de Paul qu'il présidait chaque dimanche à Saint-Sulpice. La presse religieuse ayant fait état de la maladie du curé de Notre-Dame des Victoires, une foule incessante d'amis de toutes conditions défilait dans sa chambre. On lui apporta des chapelets, des images, des médailles, des livres à bénir. Et on lui disait: « Que puis-je pour vous, monsieur le curé ? Priez, priez beaucoup pour moi. Demandez à Dieu qu'il me fasse beaucoup souffrir, afin de me purifier avant ma mort. Voulez-vous donc entrer tout droit au ciel, monsieur le curé ? Mais cela vous arrivera sûrement. Ah, mon ami, non, cela ne m'arrivera pas. Je n'en suis pas digne. Je ne pourrai pas éviter le purgatoire. » De son lit, il prêchait encore à ses paroissiens, leur faisant souvenir de leur condition de pécheur, avec des accents qui montraient assez qu'il se prêchait à lui-même. Deux religieuses du Bon Secours se relayaient à son chevet pour le veiller, mais surtout pour profiter de ses bénédictions. Sentant sa fin prochaine, il demanda à son ami, le chanoine des Fossés, de ne plus le quitter et de l'encourager dans son agonie. « Monsieur le curé, vous offrez vos souffrances à Dieu, n'est-ce pas ?»« Sans doute, mon fils, qu'en ferai-je » répondait-il, avec une malicieuse bonhomie. « Notre Seigneur a bien souffert, lui aussi, plus que vous. Oh, ce n'est pas comparable. Vous aimez bien la Sainte Vierge ?»« Oui. » « À juste titre, je l'aime, » répondit-il avec un sourire. « Vous avez bien travaillé pour sa gloire. »« Non, mon fils, je n'ai rien fait. »« Mais votre œuvre, l'archiconfrérie, ah, je n'ai pas fait tout ce que j'aurais dû faire. » Et il commençait à réciter le Salve Regina, lentement. Un visiteur lui présenta une relique de Saint Charles Borromée, son patron, en disant « C'est un grand saint qui a rendu d'immenses services à l'Église. » « Oh oui, nous aurions bien besoin aujourd'hui de 3 ou 4 saints Charles, » répondit le père. Le samedi soir, il fit transmettre sa dernière bénédiction aux associés pour leur réunion au pied de l'autel de la Sainte Vierge. « Vous leur direz que j'appelle des mains de la Sainte Vierge les bénédictions les plus précieuses et les plus abondantes sur tous les membres de l'archiconfrérie. Vous leur direz que ce sont là les adieux d'un père à ses enfants. Voulez-vous que je dise encore que vous demandez pardon à tous ceux que vous auriez offensés ou scandalisés ? Oh oui, répondit-il, et que vous pardonnez à tous ceux qui vous ont fait de la peine. Mais il ne faut pas dire cela, mon fils, parce qu'on croirait que j'ai conservé de la rancune contre quelqu'un, et je n'en ai gardé contre personne. Le lundi 23 avril, il dit à son neveu accouru de Normandie, « Reste ici, ne t'en va pas, ni demain, ni après-demain, ce n'est pas la peine. » Les visites pourtant continuaient à se succéder, et lui voulait qu'on ne renvoyât personne. Il répondait à tous, bien qu'il eût la voix très embarrassée par le muguet. Un prêtre venu lui demander de bénir une nouvelle association affiliée à l'archiconfrérie, il répondit: « Priez, persévérez et vous triompherez. » La dévotion au Saint et Immaculé Cœur de Marie est le principe et le centre de toute dévotion. Julien, un jeune homme qui venait chaque soir aider à transporter le mourant d'un lit à un autre, reçut ce témoignage d'affection. « Voilà le dernier service que vous me rendez, » lui dit le malade. Le garçon le regarda avec des larmes dans les yeux. si bien que le père ajouta en souriant « Allons, embrassez-moi ». Julien se pencha respectueusement, effleura la joue et se releva. « eh bien, est-ce ainsi qu'on embrasse quand on aime ? Embrassez-moi sur les deux joues. » Le lendemain, l'archevêque de Paris vint auprès du lit du malade, qu'il trouva en pleine connaissance, mais incapable de parler. Peu après, il entra en agonie. Il fut assisté par deux des prêtres de la paroisse qui récitèrent auprès de lui la prière des agonisants. Puis, il s'endormit paisiblement à 1h45 du matin. C'était le 25 avril 1860, en la fête de l'apôtre Saint-Marc. Le père des Jeunettes était un des premiers entrés dans le tiers-ordre de Saint-Dominique. Aussi, les dominicains se relayaient auprès de son lit avec les prêtres de la paroisse. La nuit, les frères du tiers-ordre veillaient en priant auprès de son corps. Dès qu'il eut été embaumé, son corps fut transporté dans la chapelle ardente, élevée aux frais du conseil de fabrique. Son cœur, selon son désir, fut transporté dans la chapelle de l'orphelinat de la Providence qu'il avait fondée. Et depuis, la chapelle ayant fermé, le cœur du père des Jeunettes est maintenant dans la basilique. Le lendemain de sa mort, le comte de Germigny, gouverneur de la Banque de France, porta au ministre des Cultes la requête du père qui désirait être enterré au pied de l'autel de la Sainte Vierge. Celle-ci parut le lendemain dans le journal Le Moniteur et fut approuvée immédiatement par l'empereur Napoléon III. Pendant les 3 jours que dura l'exposition du corps, de nombreux fidèles vinrent le visiter et lui faire toucher des chapelets et des médailles. Le matin du 30 avril, le corps revêtu des habits sacerdotaux et enveloppé de la robe blanche et du manteau noir des dominicains fut mis dans un cercueil de plomb. Sous sa tête, on déposa le manuel de l'archiconfrérie, à ses pieds une boîte de fer blanc renfermant une déclaration signée par monsieur le docteur Tessier, le sous-directeur de l'archiconfrérie, 3 vicaires de la paroisse et 2 membres de la fabrique, constatant que le corps enfermé dans ce cercueil était bien celui de monsieur Dufrige des Jeunettes, curé de Notre-Dame des Victoires. La nouvelle de sa mort s'était répandue de la paroisse à la capitale, tandis que les journaux la répercutaient dans l'ensemble du monde catholique. Le pape Pie IX apprit avec tristesse la mort du père des Jeunettes. Il dira au successeur du père, c'était un saint. La messe de funérailles fut présidée par l'archevêque de Paris, qui prononça un hommage aux défunts, dont je vous livre un extrait. La protection et l'assistance de la Très Sainte Vierge, toujours si nécessaires, sont encore plus indispensables au temps où nous vivons. Et puisque le bon pasteur n'a rien négligé pour que ce grand diocèse fût spécialement gardé par Marie, puisque dans son zèle si ardent, dans sa charité si vive, il a procuré autant qu'il a pu et par des moyens vraiment admirables que son âme lui a suggérés, la gloire de la Très Sainte Vierge, de telle sorte que ses espérances premières et ses saints désirs ont été infiniment dépassés. Cherchons à marcher sur ses traces, ne négligeons rien pour faire à son exemple tout ce qui sera possible pour seconder une œuvre si efficace et si précieuse, afin de rendre gloire à Dieu et d'étendre autant qu'il sera en nous la gloire de Marie, notre Mère, qui nous aime tant, bien convaincue que tant qu'elle sera là, qu'elle sera la gardienne du diocèse et la gardienne vigilante de la Sainte Église, tant que son nom sera vénéré, quel que soit le lieu où nous soyons, d'un bout du monde à l'autre, nous aurons tout à espérer. Nous n'aurons rien à craindre, de tous les événements qui surviendront, de toutes les épreuves particulières, publiques et générales, par lesquelles il faudrait passer. La gloire de Dieu rejaillira toujours. Une épitaphe qui se trouve devant l'autel de la Sainte Vierge fut composée à Rome par Monseigneur Lacroix et envoyée à Paris le 14 octobre 1860. Le travail fut terminé à la fin de l'année 1861. Une plaque de marbre blanc d'Italie fut apposée sur le pilier gauche de la chapelle de la Sainte Vierge, écrite en français. La plaque écrite en latin se situe en face, donc sur le pilier droit. Je terminerai par deux commentaires. Le premier, celui de M. Léon Aubineau, qui était le rédacteur en chef du journal L'Univers. C'est ainsi que dans l'espace de 10 mois, l'Église de France a perdu ses deux plus illustres curés, le curé d'Ars et le curé de Notre-Dame-des-Victoires. Dans les plaines de la Domble et au milieu des rues de Paris, ils ont fait tous les deux la même œuvre et accompli les mêmes merveilles. Ils ont attiré les foules vers des lieux dont elles étaient éloignées et les ont attirées pour leur faire connaître la gloire et la miséricorde divine. Tous deux ont été de grands confesseurs. Et puis celui de Monsieur de Riancé, en parlant du Père Desgenettes, il écrivait « Dieu a accordé à cet homme un don bien rare, non point l'éloquence de l'art, mais l'éloquence du cœur. Est-ce lui qui parle ou Dieu parle-t-il par sa bouche ? On le croirait. Il raconte, il prêche, il prie, il pleure. L'auditoire est touché, ébranlé, vaincu. Et ces hommes qui n'aiment que le charme du beau langage se laissent prendre par cette voix attendrie, par cette parole rude, privée des artifices de l'éloquence. » Voilà, je voulais, pour moi, c'était rendre hommage au Père Desgenettes que j'admire beaucoup. Et sur un plan matériel, son cercueil est là, sous la table de communion, ici. Donc, vous voyez, Marie, elle, on dirait qu'elle elle le regarde. Voilà, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée.